Adnan Mokrani, vous êtes professeur à l'Université grégorienne ici à Rome, professeur en études islamiques et en relations islamo-chrétiennes. Comment votre statut de professeur musulman dans une université pontificale vous fait-il expérimenter et vivre le dialogue?
Merci pour l'invitation. J'ai fait mes études de théologie islamique en Algérie, à Constantine, et puis à Tunis. J'ai étudié théologie islamique et religion comparée. Vivre à Rome et enseigner dans les universités pontificales est une opportunité, une chance unique pour moi. Je me sens à ma place. C'est une occasion pour approfondir mes connaissances du christianisme, de collaborer avec mes collègues catholiques, d'être membre dans des groupes de recherche, d'échange, de vivre d'une façon quotidienne le dialogue et être dans le centre du catholicisme.
Vous avez fait un pèlerinage. Vous êtes venu de Tunis à Rome. Vous avez fait non seulement un pèlerinage extérieur, mais on peut dire un pèlerinage intérieur.
Bien sûr. Tunis n'est pas lointain de Rome, donc une heure de vol. Mais le voyage culturel intérieur est plus important.
Voyage mental aussi.
Mental, bien sûr. Et donc, entrer dans un dialogue profond avec les personnes, découvrir la réalité, la vérité d'une vie religieuse sincère et profonde, était pour moi une découverte très importante, une conversion pour ma vie.
En quoi est-ce une conversion? Une conversion de quel ordre?
D'ordre mental, spirituel et psychique, peut-être, parce que je me suis libéré de certains préjugés, de certains stéréotypes. J'ai découvert des amis, des chrétiens qui m'ont enseigné beaucoup de choses.
Parce que je crois que vous faites la différence. Il y a un chrétien imaginaire et un chrétien concret. Comme pour nous, il y a un musulman imaginaire et un musulman concret.
Bien sûr, parce que la religion n'est pas une question théorique. Donc, nous avons besoin de connaître d'une façon directe et concrète l'expérience spirituelle des personnes concrètes. J'ai appris par l'expérience, par le vécu, par la vie quotidienne. Ce n'est pas une question de bibliothèque, de livres, d'études théoriques, mais plutôt d'un chemin, un parcours spirituel à faire, un pèlerinage pour découvrir la richesse d'une certaine religion.
Au cœur de ce parcours, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le dialogue.
Le dialogue, pour moi, n'est pas une activité diplomatique, n'est pas une activité marginale ou périphérique, mais plutôt une façon de vivre la propre foi. C'est une vie religieuse, une dimension indispensable pour une religiosité saine et sainte et riche.
Une religiosité saine et sainte.
Bien sûr, parce que malheureusement, la religion peut être mal utilisée, mal interprétée, mal vécue. Peut-être aussi être le reflet d'un égoïsme individuel ou bien collectif. Et donc le dialogue, c'est une mystique. Le dialogue, c'est un acte de conversion, de purification intérieure, de connaître les visages universels de Dieu, connaître ce que Dieu a fait avec les autres. La présence divine dans le monde, dans les cultures, dans les expériences humaines. Et ça nous donne une dimension plus riche, plus profonde, plus humaine de Dieu et de la religion.
Est-ce que c'est en ça que le dialogue est aussi libération?
C'est une libération de l'égoïsme, des préjugés, des stéréotypes, des barrières culturelles, du tribalisme planétaire. Et donc, le dialogue, c'est un acte de libération intérieure et extérieure en même temps.
Et aussi, vous parlez dans différents cours et articles qu'il y a non seulement une libération de notre ego individuel, mais libération d'un ego collectif.
Oui, bien sûr, ce grand « nous », parce que la religion est souvent créatrice de communautés, de groupes sociaux. c'est le risque d'être enfermé dans un petit groupe, une secte peut-être, et ne pas savoir communiquer avec l'universel, avec la présence divine dans le monde. Penser que notre interprétation, notre compréhension du divin est l'unique existante et l'absolu. En revanche, le parcours spirituel doit se développer et s'ouvrir sur nouvel horizon et comment on peut dire ça. Il y a un mystique musulman qui s'appelle Ibn Arabi. Il cite un exemple pour expliquer un chemin spirituel. Donc, pour arriver au soleil, à la source de la lumière, l'être humain doit traverser des obstacles, des rideaux. Ces rideaux, ces voiles, d'une part, sont une protection, parce que l'être humain ne peut pas recevoir la totalité de la lumière dans sa condition humaine. Donc, il reçoit ce que peut recevoir, ce qu'il est capable de recevoir, selon son grade spirituel. Mais pour aller plus loin, il doit déchirer ce voile. Et il trouve dans ce cas un autre voile. Mais il ne doit pas s'arrêter. Il doit toujours commencer. Le parcours spirituel, c'est un chemin à faire. Et le péché est de s'arrêter ou bien d'aller en arrière. On doit toujours aller vers la source. C'est un dynamisme, c'est un mouvement, c'est un acte de purification continue.
Vous, Adnan Mokrani, comment est-ce que vous en êtes venu à être spécialiste, entre guillemets, du dialogue islamo-chrétien?
Peut-être le point de départ était mon enfance. Ma mère était une enseignante dans une école catholique à Alger. Et la directrice de l'école était une sœur libanaise, s'appelait Athina, des sœurs du Sacré-Cœur. À travers cette sœur, ma famille a connu une certaine amitié, tendresse, un rapport humain très, très fort, très authentique, tout de suite après l'indépendance de l'Algérie. Et donc, ce rencontre avec Athina était très important.
Avec un visage.
Un visage, une personne, une sœur, une religieuse. Ça a laissé une trace permanente dans notre vie de famille. Une autre chose, il avait une certaine pluralité dans ma famille. Donc, plusieurs tendances d'idéologie. Par exemple, mon père était d'une tendance non religieuse. Après mon bac, j'ai choisi de faire les études islamiques, d'étudier théologie islamique dans la première université islamique dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Et mon père était totalement contre ça. Il a essayé, avec tous ses efforts, de me convaincre de changer d'avis, de faire autre chose. Mais à la fin, il a respecté mon choix. Il est allé personnellement pour m'inscrire à cette université. Et donc, cette vie m'a aidé beaucoup.
Quand dans une mosquée à Tunis, il n'est pas rare de rencontrer un jeune novice qui vient offrir un verre d'eau et s'incliner. De quoi ce geste est-il porteur?
J'ai vu ce geste plusieurs fois pendant mon enfance et ma jeunesse. Mais je l'ai compris seulement à Rome. Parce que je crois qu'il y a une dimension, j'ai dit déjà, mystique et soufie du dialogue. Le dialogue peut être une éducation soufie, une éducation spirituelle de l'âme et de l'esprit. Et donc, l'obstacle principal est l'égoïsme. Et cette confraternité soufie, pour le novice, le premier pas à faire est de distribuer l'eau à la mosquée. C'est un acte très simple, mais très significatif. Donc, le dialogue, c'est un service. Comme j'ai vu dans mon enfance des sœurs au service du peuple algérien, du peuple tunisien, pour l'éducation, pour aider les pauvres, etc., dans les hôpitaux, c'est un acte de service, d'humilité, d'amour. Et donc, le dialogue, c'est d'abord écouter sans préjugés et sans juger même. Écouter pleinement, sans résistance et sans hésitation. Cet accueil plein de l'autre, essayer de le comprendre de l'intérieur et voir l'aspect positif, ce courage de reconnaître la présence de Dieu et un aspect humain positif dans l'être humain. C'est un effort spirituel intérieur nécessaire pour humaniser l'être humain. Le dialogue est une part fondamentale, nécessaire, indispensable de la mission religieuse de la religion. Parce que redécouvrir cette dimension authentique, véritable, originaire de la religion, veut dire sauver la religion. Non seulement sauver les hommes, mais sauver la religion en découvrant sa vraie mission.
Sauver la religion, sauver les hommes religieux, et finalement, la mission de la religion, quelle est-elle ?
La mission de la religion, je crois, est de humaniser l'être humain, de le permettre d'être plus humain, plus ouvert, plus dialoguant, plus spirituel et plus universel.